On va continuer dans notre thématique, savoir connaître le cœur de Dieu, vivre dans l'unité avec Dieu, avec le corps de Christ et avec soi-même. Et je vous ai parlé indirectement de Jonas ce matin, puisqu'on a lu dans l'évangile de Matthieu ce que Jésus concède des pharisiens et du signe de Jonas. Et on va maintenant voir un peu le texte, et puis je parlerai aussi d'autres petites choses, mais ailleurs dans les Écritures, mais on va lire les deux premiers versets du livre de Jonas. Donc Jonas chapitre 1, versets 1 et 2. Donc Jonas chapitre 1, versets 1 et 2, un livre très court, très direct, pas de fioritures dans ce livre. Une conclusion qui est une des plus, je trouve, une des plus frustrantes de la Bible et même de tout ce que j'ai jamais lu. Hein, ça se termine un peu. Voilà, c'est très abrupt. J'en veux pas à Dieu, mais voilà, je donne mon point de vue. C'est un peu abrupt. Mais en tout cas, versets 1 et 2, donc ça commence directement. Il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. » Alors, un point d'abord qu'il faut rappeler et qui constitue une généralité, s'agissant, et peut-être que dans nos églises, on fait peut-être pas assez attention à ça, alors que dans d'autres églises, ils insistent trop là-dessus, c'est que nous croyons évidemment que la majorité ou la pensée de Dieu et la volonté de Dieu se trouvent dans les Écritures, et que cette parole s'adresse à tous les croyants, et que rien que grâce à l'enseignement des Écritures, on a déjà de quoi faire pour marcher dans les voies de Dieu. Néanmoins, on est tous des sacrificateurs, on est tous des prêtres, et on a tous une relation personnelle avec Dieu, et donc il peut arriver, dans sa souveraineté, que Dieu nous parle à nous personnellement, par le Saint-Esprit. Et je trouve que, trop souvent, on a tendance à sous-estimer ce ministère-là. Et je ne parle pas... Alors, c'est drôle parce que des fois, on connaît la volonté générale de Dieu, la doctrine, etc. Et puis, j'entends dans les conversations, j'ai envie de partir, je ne sais pas... quelque part en vacances, je prie pour connaître la volonté de Dieu, ou je sais presque, je vais faire un cadeau à Noël à ma femme, mais je prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi pas? Je sais pas, à la limite, si Dieu a envie de parler de ça. Il veut nous laisser le choix, parfois. Mais on oublie aussi que, individuellement, dans le corps de Christ, nous avons une place, non pas à prendre, mais qui nous est offerte. Et cette place qui nous est offerte dans le corps de Christ, c'est Dieu qui va nous la montrer, qui va nous aider à discerner où est cette place. Alors, ça peut se faire par l'intermédiaire du corps de Christ lui-même, mais à un moment donné, on doit arriver à une conviction s'agissant de nos dons, de notre appel, de ce qu'on a à faire, pas forcément pour toute la vie, mais en tout cas pour les prochaines années, et pas simplement tâtonner en permanence, et quelque part de chercher la volonté de Dieu au jour le jour, sans avoir une vision à moyen terme pour sa propre vie. Dans nos églises, la plupart du temps, vous savez, il y a ce qu'on appelle un institut biblique, nous croyons dans cette formation, nous croyons dans ce qui est proposé, les programmes, et là où les vertus de ce genre de ministère, Dieu peut utiliser d'autres formes, mais nous utilisons celle-là. Et des gens s'inscrivent, s'engagent, mais ne finissent pas, ou un coup oui, un coup non, un cours oui, après cinq cours le semaine d'après, après ah ben non, j'en prends qu'un finalement, etc. Et évidemment, tout le monde n'est peut-être pas appelé à être diplômé ou à être équipé comme un théologien, mais pour certains, moi je suis persuadé, c'est qu'ils n'ont pas de vision à moyen terme, ce qui fait qu'ils prennent cet outil au jour le jour. Donc en ce moment je peux, je le fais, je peux pas, j'arrête. Mais il n'y a pas une vision à moyen ou long terme. Et ce qui fait que ça ne permet pas une constance, une assiduité, parce qu'il n'y a pas de vision. Et c'est un peu... D'ailleurs, si je prends mon cas, c'était un peu la même chose avant que je sois chrétien. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai arrêté l'école en première, c'est que je ne savais pas quoi faire de ma vie de toute façon. Donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller à la fac pour faire quoi, il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai arrêté et puis voilà. Mais on a besoin de demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi ». Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que là où est ma place? Comment être utile à ton service? Et je rappelle d'ailleurs, c'est une évidence dont il faut se rappeler, c'est que servir Dieu, marcher avec Dieu, est toujours lié au fait de servir les êtres humains. Parce que sinon, c'est abstrait. Servir Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu? Je ne vais pas lui faire ses courses. D'accord ? Je ne vais pas lui faire son ménage à Dieu. Donc servir Dieu, c'est servir son Église, le corps de Christ, et aussi servir les perdus. Servir les pauvres, servir les gens qui sont dans le besoin. Donc servir Dieu, c'est toujours servir les autres à la manière de Dieu. Donc peut-être là, il y a des changements par rapport à la manière dont les autres servent les gens, et même ils peuvent faire des bonnes œuvres. Mais en tout cas, pour nous les chrétiens, il y a une manière de servir les autres, mais c'est servir les autres, servir Dieu. Donc je comprends pas trop, moi, quand les gens disent « je veux servir Dieu », mais en fait, ils restent dans leur coin. Il y a quelque chose qui va pas, quelque part. Alors, on peut servir la famille, bien entendu, mais bon, chacun a son appel, mais je pense pas que 90% des chrétiens sont appelés à servir 100% leur famille et personne d'autre à l'extérieur de la maison. Donc, ça demande une gestion d'emploi du temps, ça demande des sacrifices, parfois, de faire des priorités dans son emploi du temps, dans ce que l'on fait, pour aller dans la direction. Je veux dire, alors après, il y a différentes façons de former, mais je lisais un article publié par le directeur de Nogent, Étienne Hermenot, donc qui était président du CNEF jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et il disait une chose. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui aujourd'hui veut se former dans un institut public comme celui-là, où c'est à plein temps, pendant 3 ou 4 ans, ça coûte de l'argent, c'est plusieurs milliers d'euros sur 3-4 ans. Donc évidemment, ça ferme les portes pour certains. Mais en même temps, il disait une chose qui était vraie aussi. Il dit, c'est incroyable de voir que les gens, maintenant, payent de plus en plus, placent de plus en plus d'argent dans les études pour avoir un métier. Ils se payent des écoles privées, il y en a qui vont aux États-Unis pour gagner de l'argent après, si vous voulez. Mais pourquoi pour le Seigneur, on ne le ferait pas non plus? Vous voyez, donc, il y a un équilibre à trouver. D'un côté, il ne faut pas que la formation soit chère, et en même temps, ça gêne personne de se former dans le monde pour un coût, des fois, qui est aussi encore plus exorbitant. Donc, voilà. Après, chacun doit trouver les voies de Dieu qui sont les siennes et la volonté de Dieu, mais juste pour vous montrer que ceux qui vont faire un institut public et qui vont même des fois mettre de l'argent sur 3 ou 4 ans à temps plein, c'est parce qu'ils ont un projet, ils ont reçu une vision. Et, encore une fois, on n'est pas tous appelés à ça, mais dans l'église locale, par exemple, parmi nos proches, c'est bien de savoir où est notre place. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, il n'y a personne d'autre que Dieu qui nous le dira. Encore une fois, il va nous parler peut-être par les autres. Par exemple, pour ma part, j'ai fonctionné comme ça. À la fois, j'ai toujours voulu que ça soit Dieu qui me parle. Et en même temps, j'étais sensible à ce que Dieu faisait dans le corps de Christ. Je m'explique. Quand je suis arrivé à l'église, parce que des fois, d'abord j'étais loin de l'église, j'étais dans mon coin, mais après quand j'ai déménagé proche de l'église, j'ai choisi dans mon cœur d'accepter tout ce qu'on allait me demander. Et puis je me disais, on verra bien. Dieu, je te fais confiance. En d'autres termes, j'avais accepté d'être disponible. Et il y a des choses qu'on m'a demandé de faire où moi et les autres se sont aperçus que j'étais doué. Et puis dans d'autres domaines, ça a été pas un échec, mais voilà, c'était pas mes dons ou c'était pas le moment. Donc si vous voulez, c'est de l'apprentissage, on tâtonne, mais la réaction du corps est intéressante. C'est-à-dire que si ça bénit le corps, si les gens vous disent « Ah ben c'est bien ce que tu as fait », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être pas ce que j'aurais choisi, mais ça marche. Et petit à petit, parce que j'étais dans cette disposition-là, autant j'ai fait des erreurs peut-être dans d'autres domaines, dans celui-là, j'ai bien joué le jeu. Ce qui fait que, petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée dans le corps de Christ. Si vous avez quelqu'un qui est disponible, qui fait les choses de tout son cœur, ça encourage tout le monde, même les dirigeants, à vous demander d'autres choses. Donc, au début, c'était dupliquer des cassettes. Vous savez, dupliquer des cassettes, c'est pas... ça prenait que 3 minutes à chaque fois, mais quand vous aviez 2 sacs postaux à envoyer à la poste chaque semaine, ça fait quand même des duplications. Et surtout quand le matériel tombe en panne, etc. Donc, je faisais ça. Et puis, les gens se sont aperçus que ça tournait bien. Pas de réclamation des étudiants. Le bureau était bien rangé. C'était bien géré. La caisse était juste. Des petites choses toutes bêtes. On m'a demandé de m'occuper de la comptabilité. On m'a demandé d'être responsable de la comptabilité au dortoir, etc., etc. Et puis, un jour, alors là, c'était peut-être 1 an et demi, 2 ans après, on me demande de faire une introduction. Je la fais, je me rends disponible. Des fois, je le vois avec certains hommes, je demande à certains, tu peux faire une intro de 5 minutes? Ah non, pas maintenant, je le sens pas, c'est un peu trop tôt, on verra dans 6 mois, etc. On attend. Voilà. Puis 6 mois après, ça vient pas forcément. Si vous voulez, c'est... Et puis en plus, je vais vous le dire directement, on me prend pour un idiot. Pourquoi ? Parce que avec depuis le temps, si je demande à quelqu'un de faire une intro, c'est que je discerne qu'il y a un potentiel quand même. Alors parfois, il y en a qui n'ont pas l'élocution, la forme et tout, et on est un peu étonné, même s'ils ont la doctrine, s'ils ont des bonnes notes à l'institut ou autre. Parfois, ils n'ont pas la manière où il faut qu'ils apprennent encore. Mais en tous les cas, si je demande à quelqu'un, je ne vais pas demander à quelqu'un parce que sa tête me revient. D'accord ? Donc, moi, je demande et on me dit « Non, 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 je ne suis pas prêt. Non, non, je ne pense pas que ça soit mon appel. » Non, bon, pas non. Donc, au bout d'un moment, ça freine les velléités d'élever quelqu'un dans un ministère. Donc, il s'agit d'être disponible, en fait. D'être disponible. Et, parce qu'en plus, il y a une question qu'on doit se poser, c'est on fait les choses pour se faire plaisir ou pour bénir les autres. C'est aussi la question qu'on doit se poser. D'accord ? C'est un peu la même, c'est la musique est intéressante à ce niveau-là, donc surtout dans une chorale, par exemple, ou un groupe. C'est que vous prenez un bassiste. Un bassiste, c'est vraiment un instrument pour les humbles. Parce qu'honnêtement, le gars, il peut au conservatoire ou dans sa chambre faire des trucs, le slap, il joue à toute vitesse et tout ça. Mais alors, s'il faisait ça le dimanche matin à la louange, ça passerait pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a besoin le dimanche matin ? Poum, 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 poum. Tranquille. Parce que ça fait partie, c'est une harmonie avec le reste du groupe, si vous voulez. Il y ait une cohérence, une orchestration. Et donc, ça demande à ce bassiste d'être en retrait par rapport à ce qu'il sait faire. Mais on ne demande pas de nous montrer sa technicité. On demande une disponibilité pour être en accord, en harmonie, avec les autres instruments. C'est la même chose dans le corps de Christ et dans une vision qui est communiquée. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe de gens qui avancent dans une certaine direction et chacun est placé là où il doit être. Donc, le manque de disponibilité est un frein dans l'œuvre de Dieu, ça c'est évident. Alors, il peut y avoir des erreurs de fait, etc. Puis, on peut nous aussi demander certaines choses, de faire certaines choses. Alors, et puis, à côté de ça, les gens vont dire « Non, non, je préfère faire ça », mais vous apercevez qu'ils ne sont pas doués pour le faire. Donc, à un moment donné, ça pose problème. Mais en tous les cas, sur la durée, parce que même si on est dans notre don, si on est dans la volonté de Dieu, il y aura des déceptions, des tensions, des doutes, des échecs. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va tenir longtemps ? C'est de se souvenir que Dieu nous a parlé un jour. Et donc, c'est ce qui nous permet de persévérer. Dieu nous a parlé. Et donc, j'imagine que pendant toutes tes années au Niger, il y a dû avoir des moments où tu te dis « Qu'est-ce que je fais là ? Où sont mes montagnes suisses ?» D'accord ? Vrai ou pas ? Mais qu'est-ce qui fait ? C'est que tu croyais que tu avais un appel, que c'était ta place, et c'est ce qui a permis de persévérer. Tu es resté combien de temps ?
J'y suis toujours.
Oui, mais... Voilà, 36
ans.
36 ans. Ouais. Comment vous faites pour épouser, ça s'appelle épouser même, un pays comme ça ? C'est que Dieu m'a parlé, et le peuple de Dieu est devenu le mien, d'une certaine manière. Donc, c'est pareil, ce qui nous permet d'être dans la durée, c'est que c'est pas l'Église, c'est pas notre plaisir de le faire, c'est que Dieu nous a parlé. On sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Alors, ça peut ne pas être toute une vie, hein. Dieu, des fois, peut nous demander de passer à autre chose. Ça peut arriver aussi, changer de pays. Mais en tous les cas, même si on reste, il y en a qui en sont témoins de ça. Ces dernières années, je me suis posé la question de partir de Paris. 3 fois. En 6 ou 7 ans. Mais 3 fois, Dieu m'a montré. Non, plus que ça, ça fait peut-être en 7-8 ans. Mais 3 fois, Dieu m'a clairement dit tu restes ici. Il a utilisé différents moyens chaque fois, mais je veux dire, je ne peux pas partir. Donc, et en même temps, je ne suis pas malheureux non plus. Vous voyez, c'est simplement, je suis dans la volonté de Dieu, et il faut accepter d'accomplir sa parole. Il parle, et sa parole s'accomplit en nous, en fait. Et donc là, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ce qui a manqué à Jonas, c'est de bien écouter. De bien écouter. J'ai prêché dernièrement à Paris, pour certains, vous avez peut-être entendu les messages, mais alors c'est dans un contexte, c'est plutôt un contexte doctrinal, mais aussi ça parle de la connaissance de Christ. Vous savez, dans Timothée, il est dit qu'à la fin des temps, les gens apprendront sans cesse, sans parvenir à la connaissance de la vérité. C'est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens passifs, oisifs, sont des gens zélés, ils apprennent sans cesse, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Et on en connaît des gens comme ça. D'ailleurs, moi, quand je dis maintenant, le monde a changé, hein, mais quand vous discutez avec des gens, des visiteurs d'église, des fois, vous savez, des gens qui visitent les églises, mais en même temps, ils sont amers, ils se cherchent, voilà, ils tournent un peu. En plus, dans Paris, il y a de quoi tourner, hein, dans les églises. Il y a du monde. Mais et j'ai regardé sur YouTube, et j'ai vu ci, et j'ai lu tel livre. C'est des gens qui n'arrêtent pas. Honnêtement, ils en connaissent plus que moi. Ils me citent des livres que j'ai jamais lus. Ils me parlent de mouvements d'église que je ne connais pas. Enfin, ils savent plein de choses sur le christianisme, sur la théologie, sur l'histoire d'église. Mais je peux vous garantir que ça sent pas Christ quand vous approchez pas d'eux. Quand vous approchez d'eux, ça, c'est pas l'odeur de Christ qui est manifestée. C'est-à-dire qu'ils apprennent sans cesse, mais ils parviennent pas à la connaissance de la vérité, parce que la vérité, c'est lui. Il est la vérité. C'est lui la vérité. C'est pas la connaissance que j'ai de la vérité qui est la vérité. C'est lui-même. C'est une personne. Et donc, vous pouvez avoir une personne qui a plein de choses sur moi, mais il me connaît pas. Et vous pouvez avoir une personne qui me connaît depuis peu, mais qui en sait plus sur moi, même s'il n'a pas lu cette personne n'a pas lu ma biographie. Mais parce que la personne me connaît. Et alors, quelle est la différence? Posons-nous la question. Entre quelqu'un qui, imaginons qu'il ait eu la vie de Michel Texier en 40 volumes. Le gars, il a tout lu sur moi. La biographie est correcte. D'accord? Il sait tout. Et je rencontre une personne depuis une semaine, on passe du temps. Et la personne a l'impression de me connaître. Quelle est la différence? Pardon? Alors, la relation, très juste, mais ça sous-entend quoi, la relation? Pardon?
La communion.
Communion, ça sous-entend quoi, la communion?
L'écoute,
oui.
Passer du temps,
oui, mais...
L'échange.
Intimité, je suis d'accord, mais il y a quelque chose d'au-dessus de ça.
L'esprit.
Comment?
L'esprit.
Alors oui, d'accord, mais donc, la vie n'est pas dans un livre. La vie, elle est avec une personne. Donc, peut-être que la personne qui me connaît depuis une semaine n'en sait pas tellement au niveau de la connaissance, mais elle m'a rencontré vivant. C'est une vie qui rencontre une autre vie. Et or, aujourd'hui, on cherche... Vous voyez, on pense que parce qu'on a vu une vidéo de quelqu'un ou autre, on connaît la personne. Mais en fait, on n'est pas en contact avec la vie. On ne vit pas. Et c'est pareil avec Dieu. Je veux dire, la Bible, elle s'étudie à la Sorbonne, dans les facs. Mais, et les gens savent peut-être plus que nous sur la Bible, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'ils sont en contact avec la vie? Les pharisiens en savaient plus que l'apôtre Pierre. Mais Pierre avait reçu la vie éternelle, pas les pharisiens. C'est ce qui faisait la différence. Et qu'est-ce qui engendre la puissance dans notre vie? La puissance de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas la connaissance que l'on peut avoir. Donc, lorsque moi je cherche à connaître la volonté de Dieu pour ma vie, il faut que je rentre dans cette volonté, je dis amen à ce qu'il me propose, du coup j'ai une communion, comme vous avez une relation, etc. Mais en fait, je suis en contact avec la vie, et c'est la vie. Et d'ailleurs, il y a une promesse, il nous donne la vie, il va nous la donner en abondance. Et c'est cette vie-là qui change tout. Parce que sinon, on a une connaissance, mais ça reste notre vie. Et je peux vous garantir, et vous savez aussi bien quoi, qu'au bout d'un moment, ça, on en a marre de notre vie. En plus, non seulement on en a marre, mais notre vie n'est pas faite pour vivre la vie chrétienne. Donc, ce sera compliqué à vivre. Il nous faut la vie de Dieu. Et donc, il nous faut la vie, A-V-I-S, de Dieu. Voyez. Et donc, la parole de l'Éternel s'adresse à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On en parlera un petit peu de la méchanceté des Ninivites, mais ce qui est très intéressant de la façon dont Dieu parle à Jonas, c'est qu'il lui dit en une phrase là, tout ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, c'est toi qui dois te lever, c'est pas un autre, c'est une direction que je donne, c'est Ninive. Et oui, je sais qui ils sont, parce que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne me suis pas trompé. Je te demande quelque chose en toute connaissance de cause. Je sais qui sont les Ninivites. Mais Jonas ne va pas accepter cette phrase-là. Il va penser qu'il en sait plus sur la méchanceté des Ninivites que Dieu. Et c'est intéressant parce que il y a des commentateurs qui sont pas d'accord, mais moi j'adopte cette position plutôt. C'est que moi je pense que c'est le même Jonas que nous avons en 2 Rois 14-25. C'est-à-dire que Jonas, en 2 Rois 14-25, pourquoi? Parce que il est le fils du, le nom de son père est le même, et l'époque est à peu près la même. Mais c'est intéressant parce que Jonas, auparavant, dans 2 Rois 14-25, il avait prophétisé, quoi? Que Israël allait reconquérir des territoires perdus. On voit ça dans 2 Rois 14, 25. « Il établit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine selon la parole que l'Éternel, en parlant d'un roi ça, le Dieu d'Israël avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. » Donc on voit que Jonas, un jour, avait été voir un roi en disant « Tu sais, tu vas reconquérir le territoire. » Et là, ça s'est réalisé. Et ça, c'est une prédication qui a plu à Jonas. Pourquoi ? Parce qu'on va reconquérir le territoire. Ça concerne la nation d'Israël. C'est de l'entre-soi, comme les pharisiens. Donc ça me plaît, moi, ce message-là. Donc je veux bien l'annoncer. Et puis, quelques temps après, bah, lève-toi, oui, d'accord, va à Ninive. Là, c'est plus pareil, là. Mais, d'une certaine façon, on peut être comme ça aussi. Je parlais ce matin du pardon, les murs qu'on peut élever, etc. C'est qu'on va, entendre un message sur la grâce de Dieu, ou on va nous demander de parler de la grâce de Dieu de façon générale, ça, ça nous plaît. Mais après, on va nous demander de pardonner à quelqu'un et de le lui dire. C'est le message de l'Évangile aussi, ça. Alors, ça, j'ai pas envie de te communiquer, ce message-là. Vous voyez, c'est que nous aussi, on prie, en fait. C'est que parfois, on va mettre en pratique ou on va annoncer le message qui nous arrange. Et d'ailleurs, faisons attention à nos conversations aussi, encore une fois, dans l'entre-soi. D'un côté, il ne faut pas être dupe de ce qui se passe dans le monde, mais moi, je suis fatigué des fois de certaines conversations. Aujourd'hui, on discutait avec mon épouse, puis je dis, bon, on va la faire courte parce que je n'ai pas envie de parler de ça pendant une heure. C'est que dans le monde, on voit plein de choses, honnêtement, c'est de pire en pire. Hein, les lois qui vont passer, GMA, PMA, etc. On peut en parler des heures entre chrétiens. Et de dire, ouais, ben, la Bible elle dit ça, ils sont nuls, pauvres, pauvres, pauvres. Mais au bout de 3 heures, vous perdez complètement votre capacité d'évangéliser ces gens-là. Parce que vous avez tellement parlé en mal d'eux, que c'est pas que vous les haïssez, mais bon, voilà, c'est le monde, et puis, ah, on est bien entre nous, hein, nous on a raison. T'es contre la GPA, ou bien moi aussi, ouais, ouais, amen, amen. Tu vois, mais au bout d'un moment, c'est encore une fois, ça enlève toute capacité pour aimer. Donc, discernons les temps, informons-nous, mais aussi n'exaltons pas ce que le diable fait. D'accord ? Parlons de la bonne nouvelle. Parlons de l'Évangile. C'est un peu la même chose quand on pense en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut exalter tout ce qu'on fait de mal. On peut parler de nos péchés, les regrets de notre passé, les erreurs qu'on a faites. Mais non, mais annonçons la bonne nouvelle quand même. Hein, d'accord ? Il y a le sang de Christ qui a été versé. Dieu a oublié mes péchés. Je suis au bénéfice du pardon de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Ça va mieux dans notre âme si on pense à tout ça. D'accord ? Et c'est pareil dans nos conversations. Et là, donc, Dieu lui confie un message qui lui convient beaucoup moins. Et en plus, il l'envoie vers des païens. Et Jonas, qui connaissait pourtant la parole de Dieu, comme les pharisiens d'ailleurs, hein, c'est que, qu'est-ce qu'il savait s'agissant des païens ? Allez, je fais des interrogations ce soir. Qu'est-ce qu'il aurait dû savoir, Jonas ?
Je
ne
sais pas.
Excuse-moi.
En fait, qui connaissait pas Dieu, premièrement, parce que ce sont des païens. C'est ça que tu veux dire, c'est...
Non, oui, mais pourquoi il aurait dû accepter éventuellement ce message d'aller voir des païens ? Pour les sauver. Pour les sauver, mais pourquoi ? Comment il aurait dû savoir que c'était le cœur de Dieu ?
Israël était appelé à l'union.
Israël était appelé à l'union. C'est-à-dire qu'en Abraham, toutes les nations seront bénies. D'accord ? Donc on ne peut pas adorer Dieu en disant « Ah, on est les descendants d'Abraham, ouais, super, nous on est le peuple élu, et oui, d'accord, mais vous êtes élus pour quoi faire ?» D'accord ? Pour rester entre vous ? C'était ça les pharisiens. On reste entre nous. Alors qu'ils étaient appelés à être la lumière du monde. D'ailleurs, c'est tout de suite ce que Jésus va dire aux apôtres. Vous êtes la lumière du monde, pas la lumière d'Israël. Or, des fois, on est la lumière dans notre famille, la lumière dans notre église, mais on n'est pas la lumière dans le monde. Donc, Jonas avait oublié les promesses faites à Abraham qui devaient s'accomplir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le salut, il est pour le monde entier. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de païens se convertir. Naaman se convertit, Ninive, alors eux en masse, se convertissent. La reine de Saba, qui est venue de loin, on peut imaginer qu'il n'y a pas qu'elle qui s'est convertie d'ailleurs. Donc voilà, Israël, malgré ses erreurs, a quand même été une lumière. Donc, ça n'aurait pas dû étonner Jonas. Si je suis un prophète, je suis là pour parler de la part de Dieu. Un prophète, il est là pour ça. Ben oui, mais il ne faut pas trier le message. Hein. C'est ça, d'accord, je vais leur dire, puis ça, non, je ne vais pas le dire. Et donc, c'est ce que Jonas fait. Mais encore une fois, on peut être pareil dans nos prédications, mais aussi dans notre comportement avec les autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a une partie du message de l'Évangile qui nous intéresse. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous a fait du tort, tu vas voir celui-là. Le Seigneur va le reprendre, le Seigneur châtie ses enfants. Alors là, on connaît les versets, d'accord ? Mais on est bien loin de la miséricorde. Hein, on va prendre un beau psaume incantatoire de David dans les cavernes, hein, et c'est plus, on va pas maudire les gens. Ah, c'est tiré de la Bible. D'accord ? Mais donc, faisons attention à tout ça, on est tous pareils d'une certaine manière. Et en fait, Jonas est un nationaliste, et non seulement il envoie vers les païens, mais alors quels païens ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Ninive, donc c'était une des capitales de l'Assyrie, A2SYREL, et donc l'Assyrie. C'était la puissance, la nation la plus puissante à l'époque, et notamment qui persécutait les petites nations, dont la nation d'Israël. Et quand ils envahissaient un territoire, bah eux, comme les Babyloniens plus tard, pratiquaient ce qu'on appelle la déportation. Donc ils prenaient la population et ils la dispersaient dans leur empire pour provoquer, susciter une assimilation. Mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que ces gens... c'était des gens réputés pour leur cruauté. Alors, j'ai lu différents livres. Je me rappelle qu'à Paris, ça remonte à longtemps maintenant, j'avais parlé de ça. Il y a des gens qui ont mis en doute ce que je disais. Non, mais à ce point, non. Ouais, les commentaires, c'est pas « t'es un menteur ». C'était « où tu as lu ça ?» C'est un peu ça, d'accord ? Mais pour vous donner un exemple, les rois d'Assyrie, quand ils avaient vaincu une armée étrangère, et que le roi ennemi ou adverse était tué, en fait, il prenait la peau de ce roi, et il la faisait sécher, et c'était une décoration dans sa chambre. Donc en fait, le roi avait la peau de tous les rois vaincus dans sa chambre. Alors, c'est un goût bizarre, hein, il avait une notion de l'art particulière. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que là, les gens étaient morts à la limite. Mais autre chose aussi qu'il s'amusait à faire, il prenait des prisonniers et il les mettait dans un trou et ensuite, un peu comme un igloo, vous savez, il les emmurait dans une sorte d'igloo et ils attendaient plusieurs jours pour écouter les cris de ces gens qui étaient en train de mourir jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà, ça leur faisait plaisir, comme une musique à leurs oreilles. Ils avaient des sortes de jeux du cirque où il y avait des spectateurs avec des concours. Et là, accrochez-vous bien, ils prenaient des enfants de 2-3 ans qu'ils écorchaient vifs et celui qui gagnait, c'était celui qui arrivait à faire durer le plus longtemps, laisser l'enfant le plus longtemps en vie. Donc, l'enfant qui mourait en dernier, bah, c'était le vainqueur de ce jeu. On comprend Jonas. Vous voyez comme quoi il faut... analyser le contexte socioculturel, des fois, quand on étudie la parole de Dieu. C'est que là, nous, on est là, Jonas, quand même, bah alors... Oui, mais c'était ce peuple-là. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si l'Israélite était passé par là, mais en tous les cas, c'était ce peuple-là à qui Dieu demande d'aller prêcher la repentance et le pardon. Et Jonas n'a pas envie d'aller voir ce peuple. C'est comme si d'ailleurs, les chrétiens ont vécu des histoires comme ça, d'une certaine manière, différemment. Mais si vous demandiez à quelqu'un qui a été en camp de concentration d'aller annoncer l'évangile à un tortionnaire nazi, ça, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'on a réalisé que Christ est mort pour tous les péchés ? Pour tous les péchés. Pas pour certains, pour tous les péchés. Et là, Jonas est en train de le réaliser, parce qu'il le dit à la fin du livre, « Je savais que tu es miséricordieux. » C'est-à-dire que Jonas connaissait jusqu'à quel point la miséricorde de Dieu pouvait agir, parce que sinon, s'il avait mal connu la miséricorde de Dieu, comme quoi, vous voyez, quand on connaît quelqu'un, on sélectionne ce qui nous arrange dans son caractère. Donc, il connaissait très bien la miséricorde de Dieu, à tel point, c'est qu'il ne veut pas y aller. Parce qu'il sait que Dieu est prêt de leur pardonner. Donc, il ne veut pas y aller. C'est-à-dire qu'il censure le caractère de Dieu. Et quelqu'un qui vit dans la chair, c'est quelqu'un qui censure le caractère de Dieu dans sa vie. Soit il fait un compromis avec le péché, soit il fait un compromis avec la grâce, soit il fait un compromis avec la sainteté, soit il fait un compromis avec la justice de Dieu. Mais toujours est-il que cette manière d'être, cette manière de censurer le caractère de Dieu. Et Jonas, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il connaît certaines choses, mais il n'accepte pas que ces choses puissent arriver à l'existence, si vous voulez, à maturité. Et donc, sans doute que Jonas aurait préféré vivre un siècle après. Pourquoi ? Parce que Jonas va annoncer la repentance, on sait que Ninive va se convertir. Le seul problème, c'est que quelques générations après, Ninive va re-rentrer dans ces mêmes travers, et là, la grâce de Dieu et les accords de Dieu vont être stoppés, il va y avoir le jugement, et c'est Nahum, le prophète Nahum, si vous lisez ce livre, qui va être envoyé à Ninive pour dire le jugement de Dieu va venir, mais là, il n'y aura plus de repentance, c'est dire, voilà, ça va arriver. Ça, je pense que Jonas, il serait allé. J'y vais, et ça va s'écrouler. Mais alors que là, c'est ça va s'écrouler si vous ne convertissez pas. Et c'est cette deuxième partie qui gêne. Donc, il ne veut pas y aller. Et dans Nahum, si on lit Nahum 3, verset 1 à 3, la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, des morts innombrables. Toutes les expressions qu'on voit dans Nahum. Et d'ailleurs, après, il y a même une période où les Assyriens vont aussi, évidemment, déporter le royaume du Nord. Donc, Jonas connaît le caractère de Dieu, il ne veut pas le manifester à ceux qui, à ses yeux, ne le méritent pas. Et d'un point de vue humain, c'est même pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue divin, bien sûr qu'il ne le mérite pas. Qui mérite ? Et c'est là où il faut faire attention. C'est que c'est plus facile d'annoncer le message de mon vie si moi je réalise que non, moi aussi je ne méritais rien. Mais si je pense que je mérite parce que je suis descendant d'Abraham, parce que j'accomplis la loi, soi-disant, ou en partie, ou parce que je suis né en territoire d'Israël, là évidemment, je pense que les autres ne le méritent pas. C'est pour ça qu'il est toujours important de se souvenir d'où nous venons et où nous serions éventuellement, si Dieu n'était pas venu chercher. Et d'ailleurs, quand on parle du mérite, après il peut y avoir des histoires différentes, mais en général, Dieu a exercé sa miséricorde envers nous, il est venu nous chercher, on est d'accord. Mais de quelle manière ? En utilisant des êtres humains aussi. Des êtres humains qui ont servi Dieu en servant les autres. Est-ce qu'on ne veut pas, nous, être cette personne-là pour les autres aussi ? C'est qu'on a été bien content que quelqu'un vienne nous chercher. Ou si on est dans une famille chrétienne, nous vienne nous enseigner, nous éduquer, etc., faire des choix en notre faveur. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à avoir ce même ministère envers les autres ? Ministère de la grâce de Dieu. Et donc, il refuse cet appel, et ensuite... Et il a oublié aussi autre chose, alors évidemment c'est dans d'autres portions des Écritures, c'est que le cœur de Dieu, c'est que tout le monde arrive à la repentance. Et ça, c'est voilà quelque chose qu'on doit avoir en tête. Hein. On voit ça, par exemple, j'ai noté des versets dans 1 Timothée 2,4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Votre collègue dans le même bureau que vous, Dieu veut qu'il connaisse la vérité. Votre voisin, Dieu veut qu'il connaisse la vérité. Votre ennemi, Dieu veut qu'il connaisse la vérité. Votre ami, Dieu veut qu'il connaisse la vérité. Tous les hommes. Et ça, c'est un point important parce que ça nous amène à saisir les opportunités. Alors, je vais m'arrêter sur une chose parce que j'y pensais, c'est pas dans mes notes là, mais c'est juste c'est une réflexion qui me venait hier. Et je pense qu'à Paris, je vais peut-être aller un peu dans cette direction. C'est la prière et la méditation. On est là, je suis en train de vous dire quelque chose qui peut vous sembler bien, honnête. Oui, c'est vrai, mon voisin a besoin d'être évangélisé. Okay. On est là, et puis on va sortir, on va préparer à manger, on va se revoir tout à l'heure, on va jouer au tarot, d'autres à la belote, donc on va aller se coucher, lire un livre, on va revenir chez soi, on va faire les courses en rentrant, il y a l'école à rentrer, etc. Puis les mois passent. Et le voisin est toujours là. C'est-à-dire que, et encore une fois, là je vous parle par rapport à l'appel de Dieu, entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose de tout simple. Et je pense que, moi compris, on doit vraiment être sérieux par rapport à ça. C'est que le temps passe. Rappelez-vous la prédication de Pasteur Georges pour les 25 ans, hein, où il avait calculé le nombre de personnes qui meurent, et c'était moins d'une seconde, je crois. Il avait mis un métronome, et c'était comme ça, les gens meurent chaque jour, voilà, c'est très rapide. On est des milliards d'êtres humains, donc il y a beaucoup de gens qui meurent, qui passent dans un autre endroit. Et donc c'est des fois de dire, voilà, j'ai écouté ce message, j'ai pris des notes, et je vais m'asseoir, et je vais demander à Dieu, quelle est ta volonté, Seigneur ? Montre-moi les âmes. Je vais prier pour mon voisin, je vais prier pour mon collègue, je vais prier pour mon chef, je vais prier pour un membre de ma famille, je vais prier pour un ami, je vais prier pour un ami d'un ami d'un ami, peut-être, etc. Et une fois que j'ai fait ça, c'est, ok, maintenant que j'ai prié, peut-être que toi tu vas agir par cette prière, mais peut-être que tu vas agir aussi à travers moi maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ? Que ça soit une priorité, que je prenne le temps d'inviter ce voisin, que je prenne le temps de passer un coup de téléphone, que je prenne le temps, que c'est un ministère, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est pris dans nos agendas et des fois dans nos églises, je le reconnais, on est, voilà, on parle d'un monde idéal, un monde chrétien idéal. Et parce qu'on le dit, on se dit, ah, nous on est une bonne église. Ah non, une bonne église, c'est quand le message se propage, se vit à l'extérieur. Et on ramène les gens. On peut être là, tu sais, il y a des gens qui ont honte de l'évangile. Ouais, puis le gars, il prêche. Oui, qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des chrétiens qui ont honte de l'évangile. Ils ont honte du nom de Jésus-Christ. Ah bon, ils ont honte ? Oh, ils sont nuls, ces chrétiens. Mais nous, au travail, est-ce qu'on a honte de l'évangile ? Est-ce qu'on a honte de l'évangile devant un musulman ? Est-ce qu'on a honte de recevoir l'opprobre ? Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, il y a un coup. Je ne dis pas qu'il faille faire n'importe quoi. Je veux dire, n'arrivez pas au travail à la rentrée avec, tu sais, l'homme sandwich. D'un côté, Jésus est vivant. Et de l'autre côté, repentez-vous. Et puis, vous allez travailler comme ça, d'accord ? Ou un t-shirt. Mais un tatouage même, tu sais. C'est pas à ma maman, mais c'est à Jésus-Christ. Non, je ne dis pas ça, mais d'être plus offensif d'une certaine manière. Ne soyez pas sur la défensive. On a la vérité. Je veux dire, si votre voisin est à côté de chez vous et qu'il y a un incendie dans l'immeuble, vous allez taper à sa porte et lui dire « il y a le feu ». Mais c'est rien avec le lac de feu qui les attend dans l'éternité. C'est rien. Donc, en même temps, prenons pas la culpabilité idiote, on n'est pas le sauveur du monde non plus. Hein. Mais si vous voulez, je pense que l'Église de Jésus-Christ, avec la quantité de gens que nous sommes, on a besoin individuellement de faire notre part de... Alors, je sais que des fois, il y a des slogans, et ils valent ce qu'ils valent, ça peut nous aider à avoir des repères ou d'avoir un défi, mais dire, voilà, à la rentrée, là, jusqu'à juin prochain, quel est un ou deux disciples que je vais essayer de faire ? Quelles sont une ou deux personnes dans mon entourage dont je vais m'occuper, mais c'est déjà en priant tous les jours pour eux, et pas simplement, j'ai prié, amen, j'ai fait ma BA, mais d'avoir un ministère, et puis d'essayer d'annoncer la vérité, d'annoncer l'évangile. Et puis s'il n'y a pas d'ouverture, on n'en parlera de personne, mais vous voyez, d'être beaucoup plus offensif, de ne pas être fataliste, d'une certaine manière. Vous savez, les apôtres n'étaient pas fatalistes, hein. Ils étaient offensifs. Ils allaient de l'avant, malgré l'adversité. Alors, on n'est pas tous appelés à la même chose, mais on a une liberté encore dans notre pays. Je ne dis pas que cette liberté, les gens sont contents que nous l'ayons, mais nous l'avons. Donc, profitons-en, elle ne durera peut-être pas toujours, cette liberté. Donc, n'ayons pas honte de l'Évangile. Ne soyons pas des Jonas non plus, tu vois. Voilà, le monde, c'est comme ça. Oh, mon travail. Oui, bon, d'accord, les gens sont pécheurs, qu'est-ce que je vous dis ? De quoi ils vont parler ? Plus belle la vie, cette immondice là, mais je veux dire, il y a une autre vie à leur proposer. D'ailleurs, au lieu qu'ils soient endoctrinés par la plus belle la vie, proposons-leur la vie éternelle. Voilà, annonçons la vérité. En Ézéchiel 18-23, voilà ce que Dieu dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Dieu souhaite que le méchant vive, qu'il change de conduite. C'est possible. Tant qu'il est vivant, il peut changer. Et ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Donc, il peut changer. Vous savez, quand je me suis converti, il y a des gens, des chrétiens, qui m'ont dit « Ah bah toi, on n'y croyait plus. » Et à tel point, c'est qu'ils ne m'évangélisaient plus. C'est d'autres qui ont pris le relais. Dieu a dit « Bah puisque, voilà, Eux, ils s'arrêtent, ils vont en mettre d'autres. Donc, il y en a d'autres qui ont pris le relais, inconsciemment, ils n'étaient même pas au courant. Mais voilà, parce que j'avais résisté pendant 2 ans ou 3, je ne sais plus. Donc, on était amis, mais ils ne parlaient plus de Dieu. Ils étaient contents hein, que je me sois converti. Bon, j'étais avec les Américains, ça plaisait moins. Mais, voilà. Mais, évidemment, voilà. Mais le point, là, c'est ça, c'est que, si vous voulez, il y a... Même moi, je me suis converti. Donc, tout est possible. D'accord ? Je dis ça parce que 4 ans, c'est long. Hein. Dieu vous donne des amis chrétiens pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, au restaurant et tout ça, vous discutez de l'évangile, des débats, en veux-tu, en voilà. Je veux dire, mais non. Non. Non, non. Mais je suis têtu, mais après, quand j'ai changé, je suis toujours têtu. Mais pas pour les mêmes raisons. Donc, voilà. Donc, m'embêtez pas. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être que Jonas aurait annoncé plus facilement l'évangile si les Ninivites avaient arrêté de se comporter d'une certaine manière. Et là, il aurait peut-être annoncé l'évangile. Et nous, on est un peu comme ça. Des fois, on voudrait que les gens changent avant d'être sauvés. Alors que Paul dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si vous voulez, nous, l'annonce de l'évangile, on va l'annoncer à des gens qui n'ont pas encore changé. Et c'est ce message-là qui les amènera peut-être à changer. D'accord ? Et en plus, ce sera fait spirituellement, non pas dans la chair. Et nous, on voudrait d'abord juger et exercer la miséricorde. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a exercé la miséricorde d'abord, et le jugement, pour ceux qui la refusent, cette miséricorde viendra après. Hein, au jugement du grand trône blanc, seront jugés ceux qui ont refusé la miséricorde. Mais la miséricorde a été proposée d'abord. Et nous, nous avons un ministère de réconciliation, encore une fois, à proposer. Parce que, qu'est-ce que Dieu a fait en Jésus-Christ ? Et voyez l'unité là, c'est qu'il a, il a proposé de réunir en Christ les païens et les juifs. Le ministère de la réconciliation, c'est en Christ que nous l'avons. L'unité, elle se fait là. C'est-à-dire que les gens du monde, pour les appeler ainsi, dans notre patois de Canaan, il n'y a pas d'unité possible avec eux. Mais en Christ, c'est possible. Moi, je peux ne pas les aimer. Je ne peux ne pas aimer ce qu'ils font. Mais en Christ, c'est possible. C'est que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même par la croix. Et donc, c'est pour ça que nous annonçons le ministère de réconciliation. Parce que c'est en lui, par la croix de Jésus-Christ. Et je terminerai là-dessus ce soir. À quelle heure je dois terminer, excusez-moi ?
6h30.
4 minutes donc.
5 minutes.
Non, ce ne sera pas 5 minutes, mais bon, on va déborder un tout petit peu. Non, mais il a oublié quelque chose dans son appel, et que l'on voit dans le ministère de Paul. Et ce qui est intéressant avec Paul, c'est que Paul était un pharisien et c'était un Jonas, hein, je veux dire... en plein, quelque part. Mais on voit la bascule, comment elle a été faite. Et regardez ce qu'il dit en Éphésiens 3, versets 3 à 7. Et on va rebondir avec ce dont j'ai parlé ce matin. Éphésiens 3, versets 3 à 7. Regardez ça. Je vous ai parlé il y a un instant d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir que Dieu puisse nous parler. D'accord ? Regardez ce que Paul dit. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère » sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère, c'est qu'il a réuni les païens et les juifs. Alors évidemment, là, c'est en tant qu'apôtre qu'il reçoit cette révélation et la doctrine de l'Église. Mais l'application pour nous est celle-ci. C'est que le pardon de Dieu est un mystère. Que Dieu pardonne aux Ninivites, c'est un mystère. Qu'un pasteur puisse dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as fait, tu peux remarcher avec Dieu, même quand moi je le dis, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui nous est révélé. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, sans vision. Ce n'est pas la théologie qui nous amène à annoncer l'évangile, c'est une révélation. On a besoin de faire de la théologie, mais pour qu'elle amène à une révélation, il faut que Dieu nous parle. Il faut demander à Dieu qu'il nous parle. Et quand on a une révélation de la miséricorde de Dieu, on l'annonce, on croit que c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Paul persécutait les chrétiens, pourquoi ? Parce qu'ils annonçaient quelque chose de différent de la loi. Mais il a reçu une révélation. Et cette révélation a changé sa vie. Et donc il dit, j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous voyez, Christ c'est aussi un mystère. Et son intelligence, elle n'était pas dans son intellectualisme et dans sa connaissance de la Torah. C'est pour ça qu'il dit tout ce que je connaissais avant, je considère comme des ordures. Pourquoi ? Parce que ça ne l'a pas amené à connaître le mystère de Christ. Il est passé à côté. Par contre, quand est-ce qu'il a rencontré Christ ? Acte 9, on le sait. Et qu'est-ce que Jésus dit dans verset 15, acte 9, 15 ? Je t'ai choisi, toi, pour être, en gros, l'apôtre des nations, des païens. C'est qu'il a reçu une révélation. Il a reçu une vie. Il a été en contact avec la vie, avec le Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ça qui a changé. Il n'a pas dit, attends, explique-moi. Oui, mais alors attends, dans Deutéronome machin, il y a ça, etc. Il n'a pas fait une discussion théologique avec Jésus sur le chemin de Damas. C'est, t'es vivant. C'est, d'ailleurs, c'est le mot Seigneur qu'il utilise, Adonai. D'accord ? Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Pas de discussion. Ben, j'ai rencontré la vie. Il a connu Jésus-Christ. Et donc, cette révélation l'a amené à changer complètement de comportement. Et nous, on a besoin d'une révélation. Quelle est ma place dans le corps de Christ ? Quelle est ma fonction ? Qu'est-ce que je peux faire pour mes voisins ? Donne-moi un cœur pour mes voisins. Que ça ne soit pas une loi, une obligation, un devoir. Donne-moi un fardeau pour les âmes, Seigneur. C'est-à-dire, vivons un christianisme, et c'est là où ça, on a besoin peut-être de s'arrêter, et peut-être que ce soir, on peut le faire, après manger, c'est de s'asseoir et de prier, et de dire, Seigneur, faut que ta puissance descende en nous. Il faut, ok, on a écouté des mots, on a écouté des paroles, c'est super, mais Seigneur, que ça soit pas simplement un épisode de plus, on dit, ah bah c'était mieux que c'est beau la vie, ou je sais pas quoi, plus belle la vie, non, plus beau la vie c'est Alain Barrière, mais c'est plus beau que, plus belle la vie, c'est, non, c'est, voilà, maintenant il faut que ça soit une vie en moi, et j'ai besoin de toi, sans révélation, je peux pas le vivre ça, mais j'aimerais vivre ça. Et donc, il dit ensuite, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, au même niveau que les juifs. Voilà le mystère. Et donc, les gens à l'extérieur des églises sont co-héritiers potentiellement. D'accord ? C'est pas que nous les chrétiens. C'est pas, Seigneur, tu peux revenir, l'épouse est prête. Non, apparemment, elle n'est pas prête, parce que comme Jésus ne revient pas, c'est que l'épouse a besoin d'être complétée. Elle n'est pas formée encore. Et pour qu'elle soit formée, il faut aller chercher d'autres membres. D'accord ? Parce que Dieu ne veut pas épouser une mariée manchot ou cul-de-jatte. D'accord ? Donc, il faut que l'épouse de Christ soit formée par des membres que l'on va chercher les uns après les autres. Et à un moment donné, à un signal donné, la trompette va sonner, et là, Jésus va revenir. Et donc, les païens sont co-héritiers, forment un même corps, et participe à la même promesse par Jésus-Christ, par l'Évangile. C'est-à-dire que les Ninivites participaient à la même promesse d'Abraham. Les nations allaient être bénies en Abraham. Voilà, c'est la même promesse. Ensuite, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Et ça, c'est la clé. C'est quand on cherche sa place dans le corps de Christ. C'est un don de grâce qui nous est donné. C'est pas un examen de passage. C'est pas, oh là là, faut que je réussisse, c'est l'œuvre de Dieu, sinon je vais me faire casser. Non, c'est une grâce qui m'est offerte. Paul dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il a reçu un don, une grâce, et il est rentré dans ce don. À partir de quel mérite ? Zéro. Il ne méritait pas. C'est un don de grâce qu'il a reçu pour servir les autres, en servant Dieu. Et donc, il m'a été accordé, j'en parlerai plus tard cet après-midi, ce soir, par l'efficacité de sa puissance. Là, c'est intéressant parce que lorsqu'il est parlé, j'ai été fait ministre, on pourrait traduire par serviteur, c'est diakonos, en fait, le mot là pour ministre. Mais diakonos, dans la pensée biblique, c'est quelqu'un qui sert dans tous les domaines qui sont à sa disposition à vie. C'est ça un serviteur. Alors, c'est pas doulos, ça, c'est pas esclave, c'est un diakonos, c'est-à-dire j'administre. C'est pour ça que là, c'est le mot ministre que Sauron a utilisé. C'est qu'il administre des choses qui lui sont données par grâce. Quand on m'a demandé de dupliquer les cassettes, c'était une grâce qui m'était faite. Quand on m'a demandé de faire la comptabilité après, c'était une grâce qui m'était faite. Quand on m'a demandé de faire une introduction, c'était une grâce qui m'était faite. Quand on m'a demandé d'animer ma première réunion de prière, c'était une grâce qui m'était faite. Quand quelqu'un un jour a arrêté de vouloir faire le rôle du diable dans les mimes, on m'a demandé de le faire, c'est une grâce qui m'a été faite, etc., etc. C'est à chaque fois une grâce qui nous est faite. C'est Seigneur, tu me proposes, j'essaie, c'est une grâce. C'est pas quelque chose qu'on convoite, c'est simplement, comme dit en Proverbe, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, des fois Dieu veut utiliser le corps de Christ, et il faut, et l'examen de passage, c'est la face des gens dans le corps de Christ. c'est est-ce que ça bénit les gens, ce que je fais. C'est ça la clé. Le corps de Christ est un révélateur de mes dons, idéalement. Si les gens sont contents, c'est que je suis content aussi. Et ensuite, il est dit là, donc, j'ai été féministe selon le don de grâce. Je viens de le dire, c'est une grâce, donc c'est charis. C'est une faveur d'être consacré pour les autres. C'est une faveur d'être consacré pour les autres. Vous êtes maman, c'est une faveur d'être consacré pour les autres. Vous êtes père, c'est une faveur d'être consacré. C'est une consécration d'être père. C'est une consécration d'être mère. C'est une consécration d'être instituteur. C'est une consécration d'être enseignant. C'est une consécration d'être évangéliste. C'est une consécration d'être musicien, chantre. C'est une consécration d'être comptable. C'est une consécration. Tout ça participe à l'avancement du royaume de Dieu. C'est un don de grâce. C'est pas « Ouh, qu'est-ce qu'on va me demander de faire ?» Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, si je réussis bien ou pas, etc. C'est plus les mêmes critères. C'est plus les mêmes critères. C'est voilà, on demande, j'essaye, je fais, et puis on voit ce que ça donne. D'accord ? Et de toute façon, je suis sauvé par grâce, et puis on va de l'avant. Donc je continuerai sur ce passage d'Éphésiens, parce qu'en fait, Jonas a, je veux dire, il est passé, et j'anticipe sur la conclusion de ce soir, mais juste que vous réalisiez, c'est que Jonas... Il va accomplir, comme j'ai dit, le réveil le plus extraordinaire qui ait jamais existé, et il va pas être béni. Parce qu'il a pas, il aura jamais réalisé que c'était un don de grâce qui lui était offert. Et donc, il va pas être content de sa vie. Alors qu'en réalité, du point de vue de Dieu, de ce qu'on lit, c'est bien. D'accord? Mais lui, il est pas épanoui. Pourquoi? Parce que il voulait servir Dieu d'une certaine manière. Et on peut imaginer les Ninivites, vous savez, quand ils se sont repentis. Je sais pas ce qui a pu se passer. Si, ils ont abandonné leurs idoles, ils ont arrêté de certains comportements, ils ont sans doute trouvé la paix avec Dieu et une joie. Dire, est-ce qu'il a regardé ça? Non, je suis en haut d'une colline, je regarde là ce qui se passe, je suis à l'écart. Il participe pas à cette joie. Honnêtement, c'est un héros. On peut imaginer même que les Ninivites ont élevé une statue pour Jonas. D'accord? Merci Seigneur d'avoir envoyé ce missionnaire. J'espère que tu n'étais pas un missionnaire comme Jonas. C'est quand même extraordinaire de voir. Mais non, il n'en a même pas profité. C'est moi, je suis là à l'ombre d'un genêt et je regarde ce qui se passe. Vous voyez? Donc, écoutons la voix de Dieu, notre place, et pensons au fait que l'on est encore vivant et on doit être en relation avec quelque chose de vivant. Moi, honnêtement, il se passe plein de choses dans nos vies à tous, hein. Mais moi, ce qui me garde, c'est que Dieu m'a parlé et dans les hauts et dans les bas, je sens la vie en moi quand même. Et tant qu'il y aura cette vie, ça va. C'est la vie de Dieu. Et du coup, étonnamment, peu importe les situations, votre vie porte du fruit. Ça vous paraît encore plus injuste, mais ça dépend pas de vous. C'est une grâce qui est faite. Et la preuve, c'est que même Jonas, qui déprimait ou qui n'était pas content, cette grâce était opérante aussi. Vous voyez ? Ça dépend que de Dieu, en fait. Mais nous vivons le mieux que Jonas. Prenons notre croix et avançons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.